six, ready, go, cats, seven, cats, eight, cats, nine, hot, half cats, ten, half cats, ready to go.
Après quelques petits soucis techniques, nous revoilà, n'est-ce pas Coco ?
Nous revoilà,
au moins
oui.
Ça nous a fait bien rire, c'était le principal. Donc nous revoilà, vous avez entendu le petit jingle invité, donc avec Valentine. Valentine, tu es toujours parmi nous ?
Oui, bonjour, je suis toujours là.
Elle est toujours là. Donc pour refaire un petit apartheid, puisque pour les personnes qui étaient là, peut-être pas là pour la première heure. Nous parlons de la pin-up qui se veut plein de sex appeal, habillée de façon sexy, en robe crayon avec la taille bien appuyée, un maquillage pas trop prononcé, surtout eyeliner et rouge, voilà. Et la coiffure qui relève le tout et définit un peu une coiffure des années 40, c'est ça,
oui.
50. Une pin-up est d'abord un mannequin. Une petite starlette, on va dire, Valentine ?
Oui, on peut appeler ça comme ça, oui, tout à fait.
Une nana qui est mannequin, modèle, actrice.
Oui, mannequin, actrice.
Effeuilleuse burlesque.
Effeuilleuse, bah, ouais. Effeuilleuse. Ouais. Oui, tout
donc
à
ça
fait.
Définit vraiment la nana pin-up, en fait, qui ne peut pas être monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment, ce petit côté un peu starlette, on va dire, entre guillemets. La nana qui se fait remarquer dans la rue.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut être tout le monde aux critères physiques, mais par contre, c'est vraiment, il faut avoir dégagé quelque chose, un sex appeal, le mettre en avant. Et ça, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui exploite ce côté. Donc la pin-up, elle est vraiment bien définie de cette façon-là. Donc effectivement, ce n'est pas tout le monde si on le voit dans ce sens-là.
Oui, enfin, c'est physiquement, ça peut être tout
c'est
le monde, mais ce côté sex appeal atypique à la pin-up, ça ne peut pas être tout le monde, si on se fait
exactement.
Bien comprendre.
C'est ça, voilà.
Ça ne peut pas être la personne qui va mettre une robe qui est jusqu'en bas des enfin qui est jusqu'en bas des pieds, un peu dans ce style années 70, baba cool, hein, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment quelque chose de on est vraiment, comme on disait à l'époque, on s'apprête pour être pin-up.
Exactement, voilà. Tout à fait.
Ouais. Donc pour les femmes qui désirent découvrir ce monde, n'hésitez pas d'aller regarder un peu sur internet, on va dire. Et puis surtout les films des années 40-50, non, Valentine?
Oui, les films des années 40-50, de faire des recherches vraiment sur ce que c'est que la pin-up. L'histoire de la pin-up et de vraiment même de mettre le mot sex appeal avec sa recherche, pin-up, sex appeal. Mm-hmm. Et là, on tombe dans vraiment une histoire, qu'on va aller voir tout à l'époque, comment ça a été créé, en fait, et ces revendications féminines et ces femmes, mm-hmm, qui ont osé s'exprimer.
Mais du coup, elles ont des poses bien atypiques, ces pin-up. Ce ne sont pas des poses de mannequinat qu'on retrouve à l'heure actuelle avec leur démarche un peu nonchalante. Donc, et du coup, comment peut-on retrouver ces poses sur Internet, sur des illustrations, sur les actrices ou les mannequins de cette année, enfin de ces vieilles années, on va dire.
Oui, pour les poses, la référence des poses pin-up, là, si on veut vraiment en apprendre sur les poses, ben c'est en regardant les magazines de l'époque, comme on avait parlé tout à l'heure, là, les magazines français précurseurs, oui, des années 30, mm-hmm, les magazines et les photos qui étaient envoyées ou qui étaient publiées pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et des artistes comme Gail Helvegreen, ouais, ou Alberto Varga.
Mmh. Et les poses de Marilyn, puisque je pense que dès qu'on voit des photos de Marilyn, elle est vraiment dans ses poses typiquement typiquement pin-up.
Tout à fait. Elle
même Betty Page.
Les poses qu'on voit dans ces illustrations, Betty Page aussi, il y a des poses qu'on peut regarder et se dire ce n'est pas pin-up.
Mmh.
Ce n'est pas pin-up. Si on regarde, on va prendre un exemple avec des magazines qui sont sortis après l'époque des pin-up, même si on a eu des pin-up au début, exemple Marilyn Monroe qui a fait le Playboy, qui en fait Hugh Hefner a acheté les photos.
Mm-hmm.
Si on regarde comment que Playboy a évolué après, ce n'est pas pin-up. La femme qui écarte les jambes, ce n'est pas pin-up.
Playboy, on passe plus dans ce domaine un petit peu plus peut-être homme, beaucoup plus côté plus pornographique, on va dire.
Pornographique, c'est ça, c'est très différent. C'est-à-dire que la pin-up, elle peut poser nue ou en lingerie de façon subjective. À caractère
non pornographique,
voilà, plus érotique et non pornographique, donc vraiment on dégage le sex appeal mais sans tomber dans le porno, c'est-à-dire que les jambes ouvertes, non. Par contre on peut voir une pin-up avec une lingerie, les jambes en l'air mais fermées ensemble, ou qu'elle va cacher la partie des fesses avec quelque chose. Et c'est d'avoir une pose un peu coquine.
Oui.
On le voit toujours, de toute façon, dans même les illustrations, où c'est toujours un petit côté un petit peu coquin.
Voilà.
Elle se coince la jupe dans la porte de la voiture, et ça relève, et on voit en fait le porte-jartel.
Exactement. Et oui, ça fait sourire, parce qu'il y a un humour aussi. Dans ces illustrations-là, surtout Gail Helvegreen, on a un humour, c'est ça qui est génial, qui est très intéressant. Ça fait sourire. On se dit, ah, c'est joli, c'est mignon, on a une expression féminine et on a une petite blague derrière.
Donc la pin-up est marrante aussi, en fait.
Oui, elles sont toujours gaies et joyeuses.
Toujours gaies et joyeuses.
Oui.
Toujours le sourire.
Toujours le sourire. Elles sont souriantes, elles sont joyeuses. Et oui, il y a un côté humour aussi, tout à fait, qu'on ne parle pas très souvent, en fait, mais qui a un côté quand même assez important.
Ouais. Je pense que ça cache un petit peu ce côté un petit peu érotisme. Et justement, ça donne une autre dimension de fait qu'elle soit souriante, joviale, un petit peu casse-cou, un petit peu à faire des conneries, quoi, on va dire.
Oui, voilà.
D'ailleurs, quand on retrouve une série avec Marilyn Monroe sur la plage, qui est magnifique, où elle fait un petit peu tout et n'importe quoi, enfin, c'est travaillé, ce petit tout et n'importe quoi, mais elle fait un petit peu la faux-folle, entre guillemets, quoi.
Oui, oui, je vois tout à fait la série.
Je n'ai plus le nom du photographe en tête, mais ouais, elle est.
Elle joue avec ses cheveux, elle nous fait des grimaces. Ah oui, c'est excellent. Oui, c'est
elle saute, elle lève les jambes, on voit vraiment qu'elle est dans. Et je pense que on a un petit peu peut-être à cette génération au jour d'aujourd'hui oublié ce côté un petit peu comique.
Oui, effectivement, effectivement. Moi, je fais du, j'en fais du mannequin à pin-up et j'essaie souvent de garder ce sourire qu'il y avait, d'avoir ce côté chaleureux. Je pense que c'est important.
Ouais.
C'est vraiment associé à la pin-up.
Et donc, du coup, toi, Valentine, dis-nous un peu ton parcours, parce que tu viens pas de France.
Oui, ben en fait, je suis française et polonaise d'origine. Mes parents, ma mère a immigré au Canada, c'est-à-dire dans la province de Québec, à Montréal. Et moi, je suis née là-bas. Donc, j'ai connu ce milieu-là par le rockabilly et les scènes, si on peut appeler, de contre-culture, donc directement liées à la musique. En allant dans les concerts, et c'était mon premier shooting, si on peut dire professionnel, où j'ai été rémunérée, c'était à l'âge de 15 ans, et on m'avait approchée dans un concert, c'était un photographe qui faisait des photos sur les gens issus des milieux contre-culture. À l'époque, j'étais un peu plus dans les contre-cultures, un peu plus punk, donc après... En côtoyant ces contre-cultures-là et en allant dans les concerts, il y avait des soirées rockabilly. Et là, c'est la première fois où vraiment j'ai vu des pin-ups. Mais à l'époque, on n'appelait pas ça vraiment des pin-ups, on appelait ça des rockabilly girls.
D'accord.
Et du coup, la première fois que j'en ai vu, je les ai trouvées magnifiques. Je les regardais danser. L'attitude qu'elle avait et tout, j'ai trouvé ça génial. C'était un bar qui s'appelait le Bar Saint-Laurent. Il y avait aussi le Jailhouse Rock Café aussi, qui était très intéressant. Et c'est là, en fait, la première fois que j'ai vu des rockabilly. Et après, j'ai commencé à m'intéresser... je faisais un peu de photos par-ci, par-là, de temps en temps. Et j'ai commencé vraiment activement à faire de la photo pin-up à partir vraiment de 2010-2011. Vraiment, vraiment de façon active, là.
Donc, et comment dire, tes parents aient baigné là-dedans ou tu as découvert ça toute seule de ton côté par rapport à ce que tu disais, ces mouvements?
C'est-à-dire que ma mère, c'est quelqu'un qui écoutait énormément de musique. Donc, il y avait toujours de la musique en permanence à la maison. Mon père, le côté de la famille, mon père sont français. Et mon grand-père, c'est des Français d'Amérique. Et mon grand-père, il avait la voiture de l'époque de la façon qu'il était habillé, c'était toujours comme les années 50. Il était comme ça tous les jours. Et quand on allait chez lui, il y avait toujours une petite radio allumée dans la cuisine qui jouait en permanence, même la nuit. Et c'était sur un poste de radio de musique de l'époque. Et on avait du rockabilly, on avait des crooners, beaucoup des crooners. Donc forcément, j'ai grandi avec cette musique-là et aussi avec un peu ce qu'on voit de l'époque d'après-guerre aux États-Unis ou en Amérique au complet, en fait, qui existe toujours aujourd'hui, c'est-à-dire bon, peut-être un peu moins qu'à ces blocs-là, mais j'ai quand même connu les balades en voiture en famille. Et on avait aussi des endroits, un peu des diners, des drive-in, c'est comme on appelle, où les gens viennent stationner en voiture, en famille, manger là-bas. Et aujourd'hui, il y a toujours des expositions de voitures dans ces endroits-là qu'on peut aller à Montréal. Donc, oui, j'ai grandi en quelque sorte avec une musique que j'entendais régulièrement à la maison. Mais bon, ma mère, elle écoutait de la musique, ça pouvait aller des années 40 à 70, même des fois à 80. mais la musique des années 50, pour moi, me rappelle vraiment mon enfance, parce que mon grand-père l'écoutait.
Mais voilà. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de télévision dans les années 40-50. Enfin, en tout cas, il y en avait moins qu'au jour d'aujourd'hui. Donc, les gens écoutaient plus de musique, les plus se balader. C'était les radios. Ouais.
Et je pense que c'est pour ça que mon grand-père avait toujours une petite radio qui fonctionnait même la nuit dans la cuisine. Je pense que ça date peut-être de parce que lui, justement, il a connu l'époque où il n'y avait pas encore de télé. Donc je pense qu'à cette époque-là, on devait garder toujours une petite radio allumée et qu'il avait gardé cette habitude, je crois.
Et c'était une radio qui datait de ces années-là?
Ah oh bah là, écoute, je me souviens plus.
Tu te souviens plus?
Mais oui, ça devait être une... Parce que bon, chez lui, la déco, elle était très années 50. Hein, c'était resté comme ça. Il avait... si on regardait sur les murs, là, les décorations qu'il avait, on avait les petits caniches, les poodles en céramique et tout ça. Il avait ça.
Les trucs de vieux qui reviennent à la mode aujourd'hui, quoi.
Exactement, voilà. Donc oui, j'ai un peu baigné dedans, grandi dedans, si on peut dire, par la culture américaine, en fait, que tout le monde l'a connue. Hein. Je pense que toutes les gens qui ont grandi en Amérique peuvent dire avoir eu une grand-mère, un grand-père, une tante qui avait cette déco-là à la maison et qui écoutait cette musique-là. Tout à fait. Mais c'est vraiment en allant dans les endroits de contre-culture que j'ai connu le milieu rockabilly et après les pin-up, et que là je me suis intéressée encore plus et que j'ai commencé à faire du modèle pin-up et ensuite maintenant du mannequinat pin-up.
Et c'est quelque chose que tu fais par passion, t'as eu l'impression que c'était ta voie obligatoire, la pin-up?
Oui, tout à fait, je le fais par passion. Et au bout d'un moment, à force de le faire par passion, parce qu'au début, je répondais à des annonces de photographes qui cherchaient des pin-ups pour faire des photos ou des projets photos. Et je répondais à des annonces. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premières photos vraiment pin-up. Et après, j'ai vraiment développé des projets personnels. Je me dis, j'aimerais faire ce style-là. Donc là, j'ai vraiment développé mon style. J'ai voulu développer mon style dans le sens que j'ai voulu choisir ce que j'allais reproduire. Donc j'ai fait mes recherches par rapport à la pin-up, j'ai sélectionné ce qui me plaisait le plus, c'est ce que moi j'avais envie de reproduire et quel style je voulais reproduire.
Il y a des styles différents du coup de pin-up alors?
Il y a des styles différents et du coup moi j'ai vraiment voulu reproduire le plus proche de la réalité pin-up. 40-50, surtout 50. Je dirais même que le début... j'aime bien aussi la période de la fin des années 50, début 60, mais très début 60. Hein, on parle vraiment dans le début. J'ai même un goût pour les voitures de cette époque-là aussi. Vraiment le début, là, on parle de 61, 62, 63 maximum au niveau des voitures, puis au niveau de la décoration des meubles. Meubles et des décorations de qu'on a dans la maison aussi. J'aime beaucoup la période 50 début 60.
Oui, parce que en fait en ce moment maintenant ce qu'on parle beaucoup c'est de la pin-up à l'heure actuelle, mais il faut savoir qu'il existe des choses qui sont vraiment des années de ces années-là, 40, 50 voire début 60, mais aussi qu'il y a pas mal de repros.
Il y a pas mal de repros. Donc moi ce que j'essaie de faire dans mon travail de mannequin pin-up, c'est de vraiment reproduire ce que je retiens de que je préfère de ces années-là. Et là du coup ça ensuite après pour continuer dans le parcours, ça m'a amené en exposant mes projets via les réseaux sociaux ou par des expositions. Du coup au bout d'un moment on a des gens qui aiment ce qu'on fait, qui nous contactent, qui disent c'est un style intéressant, j'ai envie de travailler avec toi. Donc, il y a des propositions qui viennent après, et là, on fait des collaborations avec des gens, où on est payé par des gens pour faire des projets. J'ai fait beaucoup de collections privées aussi, surtout quand j'étais à Montréal. Il y a beaucoup de collectionneurs privés qui sont très passionnés des pin-up et qui s'offrent un shooting d'une pin-up Et,
c'est cool.
Ah ouais, c'est vraiment génial. Donc, je suis dans quelques maisons de collectionneurs en Amérique, exposées au mur, voilà, dans des cadres. Donc, ça, j'ai fait beaucoup aussi de collectionneurs privés. Et ça, j'aime bien parce que le collectionneur privé, quand il choisit d'avoir des photos d'une pin-up, évidemment, il s'offre quelque chose. Donc, il va c'est rémunéré, évidemment. Mm-hmm.
Ouais.
Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on a la toute liberté. Donc, c'est vraiment du mannequinat dans le sens qu'on est rémunéré pour le faire, mais on a toute la liberté. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous dicter quoi faire. C'est-à-dire qu'on fait les photos, ensuite on lui offre. Et en tant que collectionneur, il dit bah waouh, elle m'a fait tel travail ou oh, j'aime ce qu'elle m'a amené comme style. Et souvent, justement, les collectionneurs privés vont choisir les pin-up en fonction de leur style, parce qu'ils aiment leur style. Donc, j'ai fait beaucoup de collections privées aussi, et des magazines après, parce que là, il a commencé à avoir beaucoup de magazines, surtout américains, parce qu'en France, l'industrie du mannequinat pin-up n'est pas encore vraiment développée, mais ça, on va y revenir, je vais y revenir après. Et dernièrement, j'ai fait plusieurs magazines américains, et dernièrement, j'avais eu, l'année dernière, une offre de photographes assez importants dans l'industrie du mannequinat pin-up à Las Vegas, qui est un photographe de Los Angeles, Shogun Photography Production, qui m'a invité à venir à Viva Las Vegas en tant que mannequin pin-up pour faire
c'est un ce qui est très cool.
Et oui, c'est
ce qui
super.
Est très cool.
Alors là, j'étais très très contente.
Tu m'étonnes, ça on veut bien croire. Et on va juste arrêter l'interview dans une première partie. On va passer à la rubrique cuisine et on te reprend tout de suite après, Valentine.
Oui, très bien.
Donc c'est parti pour le jingle cuisine et la rubrique cuisine.
Bien.
Notre petite rubrique cuisine. Oui, alors, comme nous parlons de la pin-up, nous devions parler du cupcake, puisque au jour d'aujourd'hui, le cupcake est associé un peu au monde de la pin-up, je pense parce qu'il est très coloré. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans une recette de cupcake, nous vous avons... Pardon, je cafouille. On vous aide à choisir laquelle. Évidemment, on va vous donner une recette pour débutante, ou débutant. Nature est simple. Son avantage, on peut l'aromatiser à tous les parfums et y ajouter tous les fourrages à volonté.
Voilà, chacun a son goût.
Voilà. Donc c'est la première recette que j'aimerais bien réaliser aussi, puisque j'ai pas jamais fait de cupcake non plus, mais j'aime bien les manger. Je préfère les manger. C'est vrai que on peut faire ça en toutes circonstances, mais à Noël, ça peut être sympathique. Et comme Noël est dans pas longtemps, puisque tout va vite au jour d'aujourd'hui. Donc, les petits ingrédients... Alors, à prévoir pour 12 cupcakes, 120 g d'œufs, 120 g de sucre, 120 g de farine, 120 g de beurre demi-sel, 500 g de mascarpone. Tout ça pour une cuisson de 20 minutes et un budget moyen de 6,91 €. Ça reste correct. Pour la préparation, il faut penser à préchauffer le four à 180 degrés, surtout penser. Dans un deuxième temps, faire fondre le beurre. Attention qu'il reste coloré en jaune, opaque et non pas translucide. Mettre le sucre, les œufs dans un robot avec le fouet. Alors si vous n'avez pas un robot, un récipient, vous tournez vous-même à la main. Donc pour ceux qui ont envie de se fatiguer le poignet ou pas. Donc on fouette le tout jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Votre préparation aura logiquement doublé de volume. Enlevez le fouet, ajoutez la farine avec la levure incorporée. Mélangez le tout. Ajoutez le beurre fondu, mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. On prend un moule en silicone où on ajoute dedans les petites caissettes en papier.
Oui.
Pour éviter de démouler le cupcake. C'est toujours plus sympathique de faire comme ça. Au lieu de le démouler, le remettre dans sa petite... ouais. Et en plus, il prend le petit papier un petit peu en accordéon. Mmh. C'est toujours plus sympathique. Donc, on remplit le moule à cupcake de caissettes en papier. On verse la pâte jusqu'à 2-3 de chaque caissette. On fait cuire pendant environ 20 minutes. On vérifie la cuisson et on évite de trop ouvrir le four aussi pour pas que les petits gâteaux tombent. Et on laisse refroidir, surtout. Et on enchaîne avec le topping du cupcake. D'accord. C'est deux choses où il faut bien que le cupcake soit refroidi avant de mettre le topping au-dessus. Donc toujours pareil pour 12 cupcakes, 500 g de mascarpone, 100 g de sucre glace, du colorant ou de l'arôme, à votre bon vouloir, le goût que vous avez envie, soit vert, soit jaune, soit rouge. C'est comme vous choisissez. Donc pour la préparation, mettre dans votre saladier et les fouets de votre robot au congélateur pendant moins 10 minutes.
Ah bon?
Ouais, sinon ça prend pas. Ça fait comme une petite chantilly. Sortez votre bol du congélateur et mettez-y votre mascarpone et le sucre glace. Rajoutez éventuellement du colorant ou un arôme. Pour ma part, pour la période de Noël, je pense qu'on peut passer du vert, on peut passer du rouge et du blanc. On peut faire de jolies choses, même les trois à la fois.
Oui.
On essaye de voir ce qu'on peut faire, de mettre... Allez, un tiers de chantilly de gauche à droite dans des saladiers différents et on rajoute le colorant après. Et puis, on monte tout ça et on laisse au frais et ensuite on monte son petit cupcake.
Et on le déguste.
Ouais, on l'aura peut-être dégusté avant.
Gourmande.
Bah écoute, tant qu'à faire. Mais ça peut être une bonne idée pour des petites festivités, puisque c'est des petits cupcakes, donc ça va vite à manger, des petits goûters, Noël, ça peut être sympathique aussi. On peut être pin-up tout le temps, hein. C'est possible. Est-ce que Valentine est toujours parmi nous?
Oui, je suis là, bonjour.
Elle est toujours là. Donc on va passer par une petite musique d'abord, et puis après on te reprend, ma Valentine.
Excellent.
Donc Angèle, tu nous proposes...
Alors cette fois, je vais vous mettre Now Stop de Martha Carson, sorti en 1957.
On t'écoute.
Now stop, hold me tight. If you don't think you're gonna treat me right, you're out to tease and not to please. You don't know what you're doing when you're messing with me. Now stop, now stop. Ah, cut it out. If you don't know what love's about, now stop telling me lies. If the things you say are gonna make me cry, I don't go for bad, cause it makes me so mad to walk around blue when I should be glad. Now stop, now stop. Ah, cut it out. If you don't know what love's about, if you say that I'm your lover, honey, I'll treat you fine. But if you play one right after the other, honey, I'll draw the line. Now stop. You don't mean to play this game like a king and a queen. A joker ain't real, there has nothing he feels. I throw my hand in for a brand new deal. Now stop. Now stop. Ah, cut it out. If you don't know what love's about. Stop, hold me tight. If you don't think you're gonna treat me right, get out to tease and not to please. You don't know what you're doing when you're messing with me. Now stop, now stop. Ah, cut it out. If you don't know what love's about, now stop, now stop. Oh, cut it out. If you don't know what love's about, now stop.
Thank you.
Alors nous revoici après après cette jolie musique de Martha Carson, Now Stop, pardon, j'ai un anglais un petit peu. Donc avec Valentine, es-tu toujours parmi nous?
Coucou, je suis là.
Donc nous allons reprendre un petit peu notre interview. Nous en étions à Las Vegas.
Oui, Las Vegas. Donc là, Las Vegas, c'est très intéressant parce que le Viva Las Vegas Rockabilly Weekend, c'est là où se passe un peu tout. C'est une grande convention de rockabilly, la plus grande au monde, ou disons peut-être la plus importante pour l'industrie du mannequinat pin-up. Il y a évidemment la musique, les voitures, les pin-up et l'industrie, les photographes, les pin-up, les gens qui aussi sont de l'industrie de la mode pin-up, parce qu'on a aussi des compagnies de vêtements et tout, les effeuilleuses aussi. Il y a beaucoup autour de tout ce qui est effeuillage, avec des concours et des présentations, des spectacles. Et disons que l'invitation de Shogun Photographie Production pour moi là-bas était quelque chose d'assez important. Parce qu'on a fait un travail qui est vraiment lié à cette industrie. Et du coup, ça a sorti un travail, mais vraiment exceptionnel, qui nous a valu le mérite d'avoir la première page, la couverture du Retro Lovely Magazine, qui se trouve à être le magazine pin-up au niveau mondial le plus important, qui est très renommé, qui est connu depuis des années. Donc avant qu'il y ait une mode qui revienne de la pin-up, c'est vraiment un magazine qui existe depuis très longtemps. Et du coup, il est tiré à plus de 2 millions d'exemplaires, à plus
ce qui est pas mal.
D'abonnés, ce qui est pas mal, dans le monde entier, jusqu'au Japon.
Donc, ce qui est encore mieux.
Ce qui est encore mieux. Et ce qui est intéressant, en plus, c'est qu'il choisissait 6 modèles pour faire 6 couvertures du Viva Las Vegas, du Viva Las Vegas. Et il y a eu 4 Américaines choisies, une Israélienne et une Française.
Dont toi.
Voilà. Donc, et je me trouve en même temps, de la même façon, à être la première Française à en faire la couverture.
Ce qui est bien.
Ce qui est bien. J'en suis très, très heureuse.
Ben, c'est clair, tu peux. Nous aussi. Voilà. Donc le magazine s'appelle Retro Lovely.
Retro Lovely, et c'est le spécial édition Viva Las Vegas. On peut le trouver en ligne sur le site de MacLeod ou Retro Lovely. Et on cherche les spéciales éditions Viva Las Vegas et à Valentine Pompadour, et vous allez voir le magazine en question et pouvoir vous le procurer aussi si vous voulez.
Ce qui est bien. De toute façon, on peut le commander par Internet.
On peut le commander par Internet parce qu'il est distribué évidemment aux États-Unis, mais au niveau mondial, il est distribué par Internet.
Et il paraît combien de fois à peu près? Là, c'était une édition spéciale.
C'était une édition spéciale Viva Las Vegas. Donc moi, je suis très contente d'avoir fait cette édition spéciale-là parce que là, ça amène un peu plus d'engouement et un petit peu plus de d'acheteurs et de lecteurs qui vont aller vers cette édition spéciale. C'est-à-dire que Retro Lovely, en temps normal, ils sont à 2 millions d'abonnés. Avec un spécial comme Retro Lovely mondialement, Retro Lovely spécial Viva Las Vegas, on peut aller chercher 3 millions.
Ce qui est bien.
Est très bien. Voilà, donc c'est très intéressant. Et là, on tombe vraiment dans l'industrie du mannequinat pin-up qui n'est pas encore développée en France, qu'on travaille d'ailleurs à le faire développer.
Mais du coup, dans ce magazine, en fait, c'est purement qu'il n'y a que des photos de pin-up ou ils reprennent, ils font un reportage en fait sur Viva Las Vegas?
Non, ils font que des photos. C'est que de la photo. C'est vraiment comme des magazines de pin-up qu'on pouvait voir à l'époque. Les magazines de pin-up qu'on pouvait voir à l'époque, c'était que de la photo.
Que des photos, d'accord.
Essentiellement de la photo. Donc, ils reproduisent la même chose. C'est-à-dire qu'on a des photos seulement dans le magazine et il n'y a pas de texte. On va nommer la pin-up. Donc, on a la pin-up en couverture, mais chaque pin-up qui sont dans le magazine
sont nommés.
On présente leur nom, elles ont leur page et voilà.
Donc en fait, c'est un magazine vraiment que de pin-up, ce qui est
oui,
pas mal.
Voilà, voilà.
C'est vraiment pas mal si on veut découvrir un peu les posts pin-up et puis, puis la culture un peu pin-up, on va dire, en photo, il faut acheter
ce magazine.
Ouais, voilà, exactement. Et donc, tu as été du coup là-bas, à Las Vegas.
Voilà.
À Viva Las Vegas.
Tout à fait, c'était une des plus belles expériences au niveau du travail photo que je peux te dire. J'ai toujours des belles expériences avec les gens avec qui je travaille. J'en retiens toujours des belles expériences. Mais là, je peux te dire que c'était Shogun Photography qui est David Rocha.
Mm-hmm.
C'est vraiment quelqu'un qui a une énergie, mais tellement... qui nous entraîne à donner le meilleur de soi-même.
Mm-hmm.
Et il est très professionnel, mais aussi c'est naturel chez lui. C'est très naturel chez lui, et c'est quelqu'un qui donne tout ce qu'il a. Et c'est exceptionnel. Je peux pas décrire. Il y a pas de mots.
Il est passionné, décrire. Quoi.
C'est un passionné. Mm. Ça se ressent, mais il nous contamine.
S'il veut avoir de belles photos, s'il veut avoir de belles photos, il est obligé de contaminer les gens, sinon ça ne marchera pas trop.
Tout à fait, mais l'énergie qu'il dégage et comment qu'il dirige son modèle, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et pour moi, c'est la plus belle expérience. J'étais très impressionnée, mais j'étais un peu en transe pendant que je faisais mon shooting. J'étais ailleurs, là, j'étais plus là, j'étais dans un autre monde, tu vois, avec lui, avec l'ambiance qu'il avait.
Ah bah surtout, oui, et puis en plus à Las Vegas, ça devait pas être...
Oui. J'imagine bien, oui.
L'ambiance là-bas,
ça devait être particulier.
Ouais, ça devait être. Tout le monde rêverait d'aller à Las Vegas, je pense.
Ben, c'est vrai que l'ambiance, même outre le festival ou Orléans Hotel, simplement quand on entre dans la ville, c'est quelque chose. Las Vegas, il y a des lumières partout, il y a de l'action partout, c'est gros, les lumières sont très impressionnantes, les décorations sont très impressionnantes, tout est fait pour impressionner à Vegas, et ça a l'effet réussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé de Las Vegas, c'est le vieux Vegas, ce qu'on appelle le Old Vegas.
Mm-hmm.
Là, on a vraiment le Vegas des années 50. Alors là, on se retrouve dans une époque de Las Vegas des années 50, et c'est j'ai adoré. J'ai vraiment adoré le vieux Vegas, là. C'était une ambiance assez exceptionnelle.
Ce qui était bien pour faire des photos, du coup.
Bah, c'est top pour faire les photos. C'est le top. Il y a le désert qui est à côté aussi, où on a fait un shooting dans le désert qui n'est pas encore sorti, qui va sortir éventuellement. On garde les surprises.
Surprise, surprise.
Surprise. Mais le désert du Nevada qui est très, très intéressant aussi pour faire la photo pin-up. Et évidemment, on a le Orléans Hotel, là où on a les voitures pour le car show, et on a tout. La pool party, c'est très intéressant aussi pour faire les photos pin-up, et aussi pour les connexions au niveau du mannequin à pin-up. Ça se passe surtout à la pool party.
Mais du coup, en fait, c'est beaucoup plus développé du coup aux États-Unis. Enfin, à l'heure actuelle, je parle, hein, pas à l'époque, mais à l'heure actuelle, la pin-up est beaucoup plus développée aux États-Unis.
Ah oui, beaucoup plus. En France, il n'y a pas vraiment d'industrie du mannequinat pin-up. C'est-à-dire que quand on parle d'industrie du mannequinat pin-up, c'est justement d'être des mannequins professionnels, différentes du mannequinat qu'on retrouve actuel, où il y a toutes sortes de diktats qui n'ont rien à voir avec...
Oui, il faut être, pour le mannequin traditionnel, il faut être très grande, maigre, que là, en fait, on accepte tout le monde.
En fait, oui.
Exactement, tu vois, comme moi, je suis quelqu'un qui mesure 1m57, ce qu'on dit chez nous, 5 pieds 2, je suis très petite, très très petite, et ça me permet de pouvoir être mannequin, une mannequin pin-up, et l'industrie là-bas fonctionne de cette façon-là, et ce qui est intéressant, c'est que On a des modèles professionnels qui vont shooter pour des compagnies de vêtements, pour des grands magazines de voitures, parce que les collectionneurs de voitures, c'est une grande industrie aux États-Unis aussi, donc on a des magazines en kiosque très importants, les motos aussi. Et ce qu'on voit beaucoup moins en France, on a des magazines de l'automobile ou des motos en France, mais on voit pas encore vraiment ces magazines-là choisir des pin-up.
C'est vrai, oui.
Non, il n'y a pas. Il faudrait y revenir, parce que on avait à l'époque Paris Sexapile, pourquoi pas...
Tout à fait.
Pourquoi pas revenir là-dessus et du coup dévier purement et simplement pour la femme, pour une fois. Et au lieu de voir les magazines où on en parle de tout et n'importe quoi et surtout de régime.
Oui, voilà. On est bien d'accord. Justement, d'avoir des magazines où la femme a le droit de s'exprimer totalement dans ce qu'elle est, qu'elle peut s'exprimer justement son sexapile, mais aussi qu'elle puisse avoir le droit d'être elle-même sans qu'on lui dise quoi faire, quoi manger, comment être.
C'est ça.
Et nous, on essaie de travailler à développer ça en France parce que, bon, on voit, il y a quand même une parce qu'on voit beaucoup des compagnies prendre des mannequins traditionnels, si on peut dire. On voit pas encore prendre des pin-up professionnels, des mannequins pin-up professionnels. On a une seulement une, en tout cas à ma connaissance, on a peut-être d'autres que je ne sais pas, mais on commence à le voir se développer, exemple avec la compagnie Servin. Les bas Servin, je pense qu'on peut dire qu'ils sont les premiers à s'ouvrir aux mannequins professionnels pin-up. Ils ont dernièrement sorti une campagne avec une modèle pin-up, une mannequin pin-up qui s'appelle Stella Rochery, je crois, si je ne fais pas d'erreur, et qui a sorti des photos magnifiques, et c'est pour la compagnie Servin. Je pense qu'ils ont déjà pris à l'époque aussi Servin Bernie Dexter, qui est une autre pin-up très connue du mannequinat pin-up aux États-Unis, qui a sa ligne de vêtements, mais à l'époque, il me semble l'avoir vu fait du mannequinat pour la compagnie Servin. Donc, on pourrait dire qu'on peut féliciter la compagnie Servin.
Mais de toute façon, ils existent déjà depuis pas mal de temps. Et avec les bas coutures, c'était dans toute la logique de plutôt aller vers les pin-up que les mannequins traditionnels, on va dire.
Tout à fait, bah oui.
Donc, on peut dire qu'ils sont les premiers. On aimerait en voir d'autres, mais je pense que c'est important déjà de les féliciter parce que ça prend toujours une grande compagnie qui va ouvrir la porte et donner l'idée aux autres. Donc, on espère
que ça continuera.
Que ça continuera et de voir se développer.
Voilà, c'est bon, très suivi.
Ma petite Valentine, nous allons passer à la rubrique confiance en soi parce que l'heure tourne. Il y aurait tellement de choses à dire sur les pin-up.
Tellement.
Oui, voilà. Donc, on te garde et on te reprend pour le mot de la fin. Donc là, on passe à la partie de rubrique confiance en soi. Mon petit Angèle.
Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you.
Alors voici notre petite rubrique confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai choisi une rubrique qui, je pense, enfin, le texte peut correspondre à beaucoup de monde. C'est les personnes toxiques.
Ouh là là.
Ouais, il y en a beaucoup. Que ce soit en amitié, en amour, au travail, en société, les personnalités toxiques et malveillantes sont partout.
Partout.
Parfois, celles qu'on s'attend, à qui on s'attend pas, Donc, il existe des personnes toxiques conscientes de leur cas et des personnes toxiques qui ignorent totalement l'effet qu'elles ont sur les autres. Donc, il faut vraiment faire attention. Les personnes toxiques sont des sources de conflits, provoquent le stress et peuvent même aller jusqu'à faire ressentir un sentiment de mal-être pour développer un manque de confiance chez la personne atteinte. La première chose à faire, c'est de s'en éloigner, c'est de les identifier. Et il y a 10 catégories de personnes. Il y a l'égocentrique. On commence par le plus facile. Et lui, il vous côtoie seulement pour vous considérer comme un outil qu'il utilise pour agrandir sa confiance en lui. Un petit peu comme une sangsue. On a l'envieux. Le pire chez l'envieux. avoir envie de faire envie à ceux qui l'envient. Je ne sais pas si vous avez compris la phrase, je recommence. Avoir envie de faire envie à ceux qui l'envient. Est-ce que vous suivez? Donc en fait, oui. Du coup, l'envieux est un éternel insatisfait qui aura beau avoir tout, ça ne lui suffira jamais. Il voudra toujours plus. Donc passer trop de temps avec un envieux, c'est voir la vie du mauvais côté, puisqu'il ne saura jamais se contenter d'une réalisation, il la banalise et lui faire perdre sa valeur. Ensuite, le tordu. Pas trop compliqué non plus à repérer, le tordu est du genre à tout compliquer. Il est celui qui analysera tout jusqu'au moindre détail, souvent issu de sa simple interprétation subjective pour tirer le pire de l'histoire et vous faire sentir mal. Le persifleur n'est pas qu'un simple adepte de potin. Il ou elle tire plaisir du malheur des autres. Elle aime scruter, se renseigner, répéter ce qu'elle ne devrait pas connaître, créer un malaise et des tensions entre personnes. Donc, pareil, personne à problème, on va dire. Ouais, donc, personne à éviter. Le capricieux, c'est l'adulte enfant. Celui qui réclame tout le temps, qui n'en a jamais assez. Ouais. Donc, pareil, personne à éviter. La victime, le plus agaçant de toutes, de toutes et de tous, ça commence toujours par la même chose. Au départ, vous êtes compréhensif, à l'écoute, vous avez de l'empathie, vous tentez l'aider, puis vient la phrase d'énervement. La victime n'aime rien, elle est pessimiste, décline toute responsabilité et tout devient insupportable. Ensuite, nous avons le manipulateur. On peut tout pardonner au tordu, car son état vient d'un manque de confiance, mais le manipulateur est rarement inconscient de ses actes. Il manipule, il use, abuse de vous en se prenant pour votre ami, votre amant, vos faiblesses, vos forces, ce que vous adorez, ce qui vous agace. Il sait tout de vous pour en tirer profit. Parce que le manipulateur a toujours un but. Il tentera donc de bien vous connaître, car plus il en sait sur vous, plus il arrive à ses fins. Donc à éviter absolument. Le juge, c'est celui qui juge tout le temps. Tout le monde, il a un avis sur tout, il provoque trop d'interrogations. Voilà, il ne sait pas assumer ses choix, je pense aussi. Donc, personne à éviter. L'arrogante, une personne arrogante peut être juste désagréable, mais elle est quand même très souvent toxique, parce que l'arrogance, c'est la fausse confiance en soi. Le détracteur, sûrement le plus négatif de la liste des personnes toxiques, pessimiste, râleur, inquiet, paresseux, s'entourer d'un détracteur est le meilleur moyen de développer un esprit triste et négatif pour voir le verre à moitié vide et s'embarquer dans un tourbillon de désespoir. Comment je m'éloigne d'une personne toxique, me direz-vous? Pour s'éloigner le plus efficacement d'une personne toxique, on commence par se détacher d'elle émotionnellement. C'est souvent long, car la personne toxique a cette capacité à vous prendre par les sentiments. Pas de panique, ce n'est pas si compliqué. Restez vous-même, être à l'écoute et dès qu'il y a un souci, dès que vous vous sentez mal à l'aise, il faut déjà réfléchir en se disant « là, il y a un problème ». Donc sur ce, nous reprenons notre petite Valentine. Valentine, tu nous as écouté ?
Oui, c'est très intéressant d'ailleurs.
Il y a un peu trop de personnes toxiques dans l'entourage des gens, bien plus qu'on pourrait en penser d'ailleurs.
Malheureusement, et je pense que de nos jours, on voit les personnes toxiques, les problèmes de personnes toxiques s'accroître. Et je ne sais pas si c'est pas lié aux réseaux sociaux. Selon les études, de ce qu'ils en disent, et on verra peut-être plus tard, c'est lié à quoi. Mais je pense qu'en ce moment, oui, malheureusement, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Mmh. C'est très triste. Et effectivement, il faut s'en éloigner, parce qu'au bout d'un moment, ça
pollue notre vie.
Ça peut avoir des effets très négatifs, d'amener des gens à être très mal, plus avoir confiance en eux, à être en dépression. Et c'est très difficile. De toute façon, à partir du moment où on se rend compte qu'une personne carbure à faire mal aux autres, à rabaisser les autres ou quoi que ce soit, il faut s'en éloigner tout de suite.
C'est clair. Mais on dit souvent que si on veut savoir si une personne dit du mal de nous, il suffit d'écouter ce qu'elle dit des autres. Et je pense que c'est déjà un premier signal qui devrait vous dire que si elle parle attention, comme ça des autres, elle doit faire la même chose avec moi. Donc je pense que il faut vraiment faire attention aux gens toxiques, parce qu'ils peuvent vraiment détruire la vie des autres et vous empêcher d'être authentique et de vivre votre vie, puisqu'au final, elle vous fait douter, elle vous fait vous poser 36 000 questions et vous êtes plus dans ce que vous avez envie d'être, vos projets et même vous-même.
Effectivement, et ça, on le voit souvent, on peut l'observer aussi chez ce type de personnes-là. Ils vont pas le reproduire seulement avec les gens dont ils sont jaloux, mm-hmm. Ils vont le reproduire sur leurs amis aussi.
Oui.
Ces gens-là, ils ont un mal-être intérieur pour se comporter de cette façon-là.
Je pense qu'à la base, que ce soit les 10 personnes toxiques à laquelle j'ai fait référence, ils ont tous un manque de confiance en eux, ça c'est évident. Mais voilà. C'est sûr qu'il y a des gens comme le manipulateur à qui il faut faire vraiment très attention et vraiment aller dans les petits détails, prendre du recul, ne rien précipiter, arrêter d'être trop gentil, on va dire, comme on le dit régulièrement. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre du recul, écouter les choses et prendre le temps de découvrir les gens et pas partir dans la précipitation. Comme tu disais, voilà. Ouais, les réseaux sociaux, ça nous a permis de voir beaucoup de choses et qu'il y ait des gens qui se dévoilent aussi un petit peu, je pense.
Oui, tout à fait. Et on voit beaucoup de gens développer certains problèmes de narcissisme, de pervers narcissique.
Aussi.
Et là, ça devient très très difficile à vivre parce que pour les personnes qui le subissent, ça peut prendre un moment avant de s'en rendre compte parce que comme tu dis, ces gens-là sont très manipulateurs. Hein. Mm-hmm. Donc ils sont excellents pour orchestrer des mises en scène aussi.
Ah oui, on est vraiment dans la manipulation, la manipulation du cerveau de toutes les façons.
Oui, et voilà, c'est ça.
C'est ça. Donc, petit mot de la fin, parce que on va devoir rendre l'antenne. Donc, du coup, si on pouvait faire un petit résumé de la pin-up, Valentine.
Un petit résumé de la pin-up. la femme qui s'exprime en toute liberté, qui exprime sa féminité, son sex-appeal, sa liberté, et qui revendique avoir le droit d'être femme. Et aussi, surtout, moi, je le vois vraiment, si je dis pin-up, deux mots associés, ou plutôt deux phrases associées, ce serait sex-appeal et pin-up, célébration de la femme. Pour moi, c'est la célébration de la femme.
C'est vraiment dans sa féminité, quoi, on va dire.
Tout à fait.
Moi, ce que j'ai retenu de tout ce qu'on vient de dire, c'est que la pin-up, c'est quelque chose qui se travaille. On doit s'apprêter, on doit se coiffer, on doit se maquiller, on doit avoir cette attitude, travailler ses postures, puisque c'est ce qui est important. Et puis surtout, cette petite nana rigolote aussi. qu'on oublie souvent, c'est mm-hmm. cette femme qui est à la fois, on va dire, modèle, actrice et feuilleuse. C'est cette femme qui est peut-être un petit peu starlette. C'est vrai que à l'époque, Marilyn Monroe, on l'appelait quand même beaucoup la starlette. Du coup, je pense que il faut pas faire trop d'amalgame par rapport au modèle rétro, si on peut dire ça. C'est pas parce que vous avez une robe à pois que vous êtes pin-up. C'est pas parce que vous avez une coiffure, une robe à pois et des talons que vous êtes pin-up. C'est vraiment cette attitude, comme disait Valentine, ce sex-appeal. C'est une femme que l'on remarque dans la rue qui suggère beaucoup de choses sans pouvoir l'atteindre. Ce n'est pas du porno, c'est vraiment de la sensualité. Donc je pense que c'est un bon résumé de la pin-up.
Oui, tout à fait. Et puis ce qui est bien, c'est je crois que chaque femme a une pin-up cachée en elle.
C'est ça. Par contre, Valentine, on va être à court. On dit à mercredi prochain pour tout le monde. Et merci encore, Valentine.
Bah, avec